Parle-moi d'une autre ville encore. Venise.
Vous savez, Venise, c'était la ville qui avait le théâtre le plus nombreux des autres villes. Et naturellement, il y avait beaucoup des écoles musicales, surtout où il y avait de chœurs, l'activité chorale.
Lorsque les enfants chantaient, les troncs de l'église étaient davantage remplis, notamment en période de pénitence religieuse, car les théâtres étant fermés, les amateurs de musique se rabattaient sur des institutions offrant une musique de bonne qualité. Ces musiciennes, au départ, étaient choisies parmi les enfants accueillis par charité au sein de l'institution. Et au bout d'un moment, ça devient presque des conservatoires. On perd l'idée de charité originelle.
C'est un conservatoire riche, plein d'expressions architectoniques. C'est une ambiance vraiment très importante. Moi, j'y crois beaucoup à formation ambientale. Non, nous sommes plus sensibles que ça.
France Culture, la série musicale Zoé Sfez.
Tous et à toutes, ravis de vous retrouver pour une émission comme toutes les semaines, libre de toutes les provenances, de tous les sauts temporels, de toutes les matières, de toutes les voix. Une émission sérénissime ce dimanche. Nous serons au bord du Grand Canal, une heure de radio sur la musique. Et en musique, c'est la série musicale. Bienvenue. La Sérénissime, c'est le doux nom de Venise, ville des canaux évidemment, mais ville de la musique par excellence, celle qui a vu presque naître, mais surtout grandir, l'opéra, ville des gondoliers qui chantonnent en vous faisant passer sous le pont de l'Accademia, et des grands compositeurs italiens comme Porpora, Donizetti, Vivaldi, plus récemment Stravinsky. Oui, mais pas que. Alors que le Grand Palais vous propose cet automne de redécouvrir la ville aux mille canaux grâce à une exposition immersive, Venise révélée, dont France Culture est partenaire, la série musicale vous propose de redécouvrir une autre histoire géniale, absolument unique dans l'histoire de la musique, celle des femmes musiciennes à Venise. Car oui, on le sait, cette histoire de la musique, elle est quasiment entièrement écrite par des hommes jusqu'au début du XXe siècle, ou en tout cas, la musique des femmes est très difficile à exister, à faire exister, à trouver, mais Venise fait figure d'exception, comme toujours, car sa réputation, son dynamisme musical sans équivalent, eh bien elle le doit en grande partie à des femmes. À des Phèbres célèbres pour certaines, les grandes cantatrices comme la Malibran ou la Callas, mais d'autres bien moins connues, alors qu'on doit à leur existence certaines des plus belles pages de la musique classique européenne. Ce sont les musiciennes d'Ospedale, et si vous écoutez du Vivaldi par exemple, c'est aussi et en grande partie grâce à elles. Rencontre, portrait forcément subjectif et non exhaustif avec les plus belles figures de femmes musiciennes à Venise, c'est la série musicale sur France Culture.
Thank you. Thank you.
Toujours libre de folâtrer de joie en joie, l'air de Violetta dans l'acte 1 de la Traviata, qui est sans doute l'un des opéras les plus joués au monde, les plus aimés, y compris de moi. Adaptation de La Dame aux Camélias, qui est l'œuvre sans doute la plus proche, la plus intime de l'immense Giuseppe Verdi, qui a éprouvé une profonde empathie avec le roman d'Alexandre Dumas Fils, de qui cet opéra est issu, roman presque féministe avant l'heure, qui raconte l'impossibilité pour une courtisane, donc une prostituée de luxe, de vivre un amour sincère, puisque la société de facto la condamnée. Verdi, au moment où il compose la Traviata, vivait depuis 30 ans avec une cantatrice milanaise, Giuseppina Strepone, qui avait la double tare d'être une femme de scène, autant dire une prostituée, et d'avoir été mariée dans sa jeunesse, ce qui la rendait en fait infréquentable aux yeux du monde, au grand désarroi de Verdi, qui écrivait cet opéra pour parler aussi de lui-même. Opéra écrit et monté à Venise, dans l'un des plus célèbres salles de chant de la ville, la Fenice, le Phénix, qui a vu naître aussi les chefs-d'œuvre de Donizetti et aussi Hernani et Rigoletto, autres immenses succès de Verdi. La Traviata, qui elle fut un énorme four dans un premier temps, tant le public vénitien, qui pourtant avait adoré la musique, a été dérouté par la modernité du propos. Propos là encore très féministe, qui soutenait finalement cette courtisane héroïne de cet opéra. Il a été remonté ensuite l'année suivante, cet opéra, dans un autre théâtre vénitien, où là il rencontrera un succès qui ne s'est jamais démenti depuis. Sempre libera di Violette, toujours libre. Et au 19e siècle de Verdi, et comme dans les siècles qui l'ont précédé, les femmes sont très peu libres de faire carrière professionnellement dans la musique. Elles sont peu audibles, mais pourtant, depuis le 15e siècle et jusqu'à cette année 2022, qui signait le grand retour de la Biennale d'art contemporain, Venise a en fait toujours joué un rôle assez particulier pour faire entendre la voix des femmes. Feeling Her Way, c'est le titre de l'œuvre qui a remporté cette année le Lion d'Or à la Biennale d'Art Contemporain de Venise, exposition, compétition, qui oppose depuis 1895 dans les Giardini de la Sérénissime, la plupart des pays occidentaux, mais aussi le reste du monde depuis quelques années, et qui a récompensé cette année le pavillon britannique confié à l'artiste Sonia Boyce. C'était une figure très forte du Black British Art qui a marqué le Royaume-Uni dans les années 80. C'est la première femme noire de l'histoire de la Biennale à remporter un Lion d'Or pour une œuvre très singulière, qui met en lumière une histoire méconnue de la musique britannique. Feeling Her Way est une œuvre dans laquelle elle va présenter au public du pavillon britannique cinq chanteuses musiciennes britanniques noires, filmées ensemble et séparément en train d'explorer leur voix dans le mythique studio d'Abbey Road. Des voix qui tantôt se fondent harmonieusement les unes aux autres et tantôt entrent en compétition les unes avec les autres, constituant une espèce de cacophonie qui dut bien leur difficulté à exister, à se faire entendre. Et évidemment, le rôle des femmes dans la longue histoire de la musique a toujours été assez éclipsé, mais pas forcément à Venise, cette ville assez exceptionnelle, cette ville construite sur l'eau, ville mais aussi État, République, gouvernée par elle-même et par l'absolue nécessité de ressentir du plaisir, ville où est née la première compositrice professionnelle de l'histoire de la musique occidentale. On est en 1651 et vous écoutez une ariette pour voix et basse. basse continue, intitulée « L'amour secret », typique de la musique baroque, où le narrateur, en l'occurrence la narratrice, explique qu'elle préférerait mourir plutôt que de voir l'amour qu'elle ressent révélé. Mais le « Voglio morire » est chanté langoureusement au début de cette arietta, évoque aussi sans ambiguïté la petite mort, c'est-à-dire l'orgasme. Évidemment, c'est audacieux et ça l'est d'autant plus qu'on est en 1651 et que c'est l'œuvre d'une femme que vous écoutiez. Barbara Strozzi, figure extrêmement étrange, première compositrice professionnelle connue du monde occidental. Figure qui raconte bien la liberté d'une certaine partie, d'une certaine catégorie de vénitiennes, puisque Barbara est née d'un père poète très réputé à Venise, auteur de livrets d'opéra qui était donc très bien introduit dans la vie musicale de la ville et de l'une de ses servantes, et qui se dédie entièrement à l'éducation de cette fille qui pourtant est sur le papier née de père inconnu. Cette fille Barbara qui lui permet d'étudier la musique auprès des plus grands maîtres de musique comme Cavalli, qui était l'un des compositeurs d'opéra les plus importants de l'Italie de l'époque. Son père va même jusqu'à créer une Accademia degli Unisoni, un salon d'intellectuels et de musiciens, en partie pour donner à sa fille l'occasion de chanter au cours de débats de joutes académiques. Elle est une cantatrice de premier ordre, elle est très servie évidemment par sa beauté, son intelligence et son talent de compositrice. Toute sa vie, elle va répondre à des défis lancés par l'Académie qui lui demandait de mettre en musique des textes qui lui donnaient, en général, des textes à propos de l'amour. La plupart de ses ariettes s'appellent l'amour modeste, l'amour timide, dans lequel elle devait faire preuve d'esprit, de virtuosité linguistique et d'imagerie érotique. Tour de force en 1644, à une époque où très peu de musiciens, même hommes, font imprimer leurs œuvres à cause notamment du coût que ça représentait à l'époque. Elle, Barbara, va publier son premier livre de madrigaux sur des textes de son père. Ce recueil est dédié à la grande duchesse de Toscane et dans la préface, elle explique qu'elle se présente avec une première œuvre que moi, en tant que femme, je propose anxieusement au grand jour. Œuvre qui va être suivie de bien d'autres puisqu'elle se met à composer, cette Barbara Strozzi, beaucoup d'œuvres vocales pour des mécènes comme le Doge de Venise notamment, et de grandes son temps. Elle va mourir toujours très libre, jamais mariée mais elle a eu 4 enfants, sans doute assez riche. Effectivement, très libre, cette Barbara Strozzi, comme une partie de la classe plutôt patricienne de Venise. Ça n'est pas le cas des autres musiciennes que Venise va former en masse à ce moment-là et dans les siècles qui suivent, et qui sans doute seront parmi les meilleurs musiciens d'Europe, tout genre confondu. Ces femmes qui, au départ, n'avaient rien pour elles. Elles étaient nées filles, elles étaient la plupart du temps orphelines ou enfants trouvés, mais elles vont devenir célèbres dans toute l'Europe. Elles sont sans doute à l'origine des premiers conservatoires. Ce sont les musiciennes d'Ospedali que vous présente la géniale musicologue Caroline Giron-Panel qui leur a consacré un très bon ouvrage.
Alors les Ospedali de Venise sont au nombre de 4. Ils sont nés ou ont été profondément réformés au XVIe siècle. Je dis nés ou ont été profondément réformés car 2 de ces institutions existaient déjà au Moyen-Âge. La Pietà qui accueillait les enfants trouvés et les Mendicanti qui au départ étaient une éproserie, donc qui accueillaient les personnes malades de lèpre et d'autres maladies de peau. Ont été créés au XVIe siècle en plus les Derelitti et les Incurabili. Les Derelitti pour accueillir les personnes souffrant de la faim et de la malnutrition et les Incurabili pour accueillir, comme son nom l'indique, les incurables et notamment les malades de maladies vénériennes. Toutes ces institutions accueillaient des orphelins, à l'exception de la Pietà qui accueillait des enfants trouvés, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Des enfants et des adultes des deux sexes qui étaient logés dans des parties bien séparées de chacune de ces institutions car il fallait respecter la décence du lieu. Évidemment, ce sont des institutions charitables, à but non lucratif, comme on dirait aujourd'hui. Elles vivaient de la charité publique, du mécénat. C'est aussi ce qui explique la naissance de la musique dans ces institutions-là. Puisque lors des cérémonies religieuses, des messes, des vêpres et des autres offices, les enfants accueillis dans ces institutions-là chantaient. Et les gouverneurs se sont rendus compte que lorsque les enfants chantaient, les troncs de l'église étaient davantage remplis que lorsqu'ils ne chantaient pas, notamment en période de pénitence religieuse, car les théâtres étant fermés, les amateurs de musique se rabattaient sur des institutions offrant une musique de bonne qualité. Et c'est en partie en raison de cette nécessité économique que la musique a été développée dans ces institutions.
Gloria, gloria.
Le Gloria d'Antonio Vivaldi, le prêtre roux de Venise, dont l'essentiel de la musique religieuse a été composé par et pour, et interprété évidemment dès sa naissance, par, pour les petite musicienne de l'Ospedale et della Pietà, l'un de ces quatre ospedaliers de Venise, où Vivaldi a été maître de chœur pendant quasiment 35 ans, de 1704 à 1740. Toute sa musique religieuse, donc, elle a été écrite, interprétée par ces jeunes filles. Ces musiciennes et d'Ospedale, qui étaient donc des petites filles initialement recueillies par charité dans ces étranges établissements qui étaient à la fois laïques mais régis par des règles religieuses, alors qu'on enseignait aux petits garçons des métiers manuels comme la menuiserie ou la peinture. Les jeunes filles, elles, vont être formées à la musique pour des raisons qui, effectivement, tiennent beaucoup au fait que les musiciens adorent la musique, mais qu'ils ne supportent pas la fermeture des opéras pendant les périodes religieuses. Ces petites filles vont devenir certaines des plus grandes musiciennes de leur temps. C'est dû, effectivement, à leur vie qui est entièrement dédiée à la musique, leur formation extrêmement exigeante. Très étrange figure de ces jeunes filles qui se produisaient toujours derrière des grilles, derrière les grilles de l'église dans lesquelles elles chantaient. On pouvait à peine les voir, les distinguer, qui n'avaient pas le droit de se marier, pas le droit de se produire sur les scènes d'opéra de Venise, qui devaient recevoir un enseignement pendant 10 ans, avant elles-mêmes d'enseigner pendant 10 ans, avant de pouvoir envisager peut-être de quitter l'Ospedale della Pietà. Elles vont devenir, à partir du XVIe siècle, une espèce d'étrangeté, d'attraction que Venise, évidemment, chérit. On en a une description dans une lettre d'un ambassadeur français qui écrit « La musique transcendantale ici, c'est celle des hôpitaux. Il y en a 4, toutes composées de filles bâtardes ou orphelines. Elles chantent comme des anges, jouent du violon, de la flûte, de l'orgue, du hautbois, du violoncelle, du basson. Bref, il n'y a si gros instruments qui puissent leur faire peur. Elles sont cloîtrées, mais ce sont elles seules qui exécutent et chaque concert est composé d'une quarantaine de filles. Je vous jure qu'il n'y a rien de si plaisant que de voir une jeune et jolie religieuse en habit blanc avec un bouquet de grenades sur l'oreille conduire un orchestre et battre la mesure. » Les musiciennes d'Ospedale, qui sont effectivement des figures à la fois tout à fait anonymes et célébrissimes, vont profondément marquer l'histoire de Venise, d'autant plus que leur succès s'affermissant, elles vont de plus en plus se professionnaliser.
La formation musicale de ces jeunes filles débutait très jeune, à partir de 4 ou 5 ans déjà. Elles recevaient les premiers rudiments de la musique vocale et de la musique instrumentale. Et elles se poursuivaient tout au long de leur jeunesse, puisqu'elles pouvaient obtenir le statut de soliste seulement à 21 ans, après avoir donc reçu une formation de plus de 15 années, plusieurs heures par jour. Et toujours musique vocale et musique instrumentale. Les plus jeunes recevaient les leçons de leurs aînés, et les plus âgés, les plus avancés dans la musique, recevaient les leçons du maître de chœur, qui était toujours un compositeur choisi avec soin, parmi les compositeurs les plus en vue à l'époque. Et pour ces compositeurs-là, souvent, le fait d'être maître de chœur dans un hospédalier, c'était une voie d'accès à la chapelle ducale, qui était évidemment le poste le plus prestigieux à l'époque à Venise. Ces musiciennes, au départ, étaient choisies parmi les enfants accueillis par charité au sein de l'institution. Et puis, petit à petit, les gouverneurs se sont rendus compte que pour maintenir un haut niveau d'excellence musicale, il était peut-être plus intéressant de les recruter déjà formés à la musique. Et au cours du XVIIIe siècle, on va observer comme ça une distorsion du modèle et du but de ces institutions, puisqu'il va y avoir de véritables auditions qui vont être organisées pour recruter des jeunes filles déjà formées à la musique, de plus en plus âgées. Et au bout d'un moment, ça devient des institutions qui sont presque des conservatoires. On perd l'idée de charité originelle.
Thank you. très bel divertimento pour deux flûtes et basse continue d'Anna Bon di Venezia, l'une des rares compositrices connues sorties de ses ospedales, et en l'occurrence de l'ospedale et de la Pietà, qui a été une élève de Vivaldi. Car oui, s'il était interdit à ses instrumentistes de jouer hors de leur institution et aux filles de chœur de faire carrière sur des scènes d'opéra, théoriquement, il leur était aussi absolument interdit de composer, car composer, c'est créer, et créer, c'est réservé aux hommes, évidemment. Mais la plupart d'entre elles, dans les faits, avaient plus ou moins la latitude de composer, d'autant plus qu'elles étaient très souvent copistes. Et quand on est copiste d'une partition, évidemment, on comprend très bien les règles de composition. Plusieurs prénoms ou noms émergent de cette longue cortège de musiciennes d'ospedale qui a duré pendant plus de 4 siècles. Certaines sont célèbres puisqu'elles réussissent à sortir. C'est le cas d'Anna Bon di Venezia, qui en réalité était la fille d'un librettiste d'opéra qui avait réussi à la placer à l'ospedale et qui l'a récupérée ensuite. Elle a fait carrière comme compositrice à Bayreuth, où son père était en charge, donc à la cour allemande. D'autres jeunes filles sont connues uniquement par leur prénom, puisqu'elles n'ont jamais pu être véritablement créditées. C'est le cas d'une certaine Antonia ou d'une certaine Agatha. Autre exemple extrêmement marquant, et qui lui est sans doute le plus célèbre, celui de Maddalena Lombardini-Sirmen, qui est la plus célèbre des compositrices des ospedales, et qui est autorisée à quitter l'hospice à 21 ans pour épouser un violoniste, Ludovico Sirmen, et qui va lui permettre ce mariage de partir en tournée dans toute l'Europe. Ce qui est intéressant, c'est que partout où elle passe, tout le monde compare son travail à celui de son mari et tout le monde est d'accord pour le dire. C'est elle qui, je cite, a le talent le plus distingué, son violon et la lyre d'Orphée dans les mains d'une grâce. La compositrice va avoir l'occasion de publier ses œuvres qu'on joue encore aujourd'hui. Ce sont essentiellement des œuvres pour violon, puisqu'elle était une violoniste d'immense talent. Écoutez ce concerto en ut majeur opus 3 pour violon et orchestre, interprété ici par l'orchestre baroque de Savaria. Maddalena Lombardini-Sirmen, la plus célèbre des quelques compositrices qui ont réussi à sortir des ospedali de Venise et à se faire un nom propre. On sait qu'effectivement, toutes les musiciennes d'ospedali ont d'abord et avant tout été de superbes interprètes, grandioses. Certaines sont devenues mythiques. C'est le cas notamment d'Anna Maria, qu'on appelle tout simplement Anna Maria della Pietà, Anna Marie de la Pitié, une musicienne, une violoniste hors pair qui a appris le violon avec Antonio Vivaldi, qui l'a formé dès ses débuts. Si Vivaldi, on le sait, a écrit beaucoup de pièces, notamment pour le basson, c'est parce qu'il adorait la musicienne dont on n'a pas le nom, hein, la musicienne qui jouait du basson à l'Ospedale della Pietà. Il a énormément composé pour Anna Maria, cette violoniste, notamment, évidemment, la plupart de ses concertos pour violon ont été pensés par et pour cette fameuse Anna Maria. Anna Maria qui était une musicienne absolument complète, puisqu'elle jouait aussi du violoncelle, du hautbois, du luth, de la mandoline, du clavecin et de la viole d'amour. Anna Maria qui est restée attachée toute sa vie à Vivaldi et qui, elle, n'est jamais sortie de l'Ospedale de la Pietà. On ne l'a jamais vue dehors. Elle y est morte à 60 ans après avoir elle-même enseigné à de nombreux élèves. Écoutez ce concerto pour violon en si mineur, un largo, interprété par Federico Guglielmo et son orchestre baroque, qui essaye de rendre justice à cette figure magnifique d'Anna Maria et qui lui a dédié deux albums, dont un album de collection de toutes les concertos pour violon, y compris des inédits et des oubliés de Vivaldi, qu'Antonio Vivaldi avait écrit pour elle. Sublime largo du concerto, de l'un des concertos écrits par Antonio Vivaldi pour son élève au violon Anna Maria, l'une des élèves qui a beaucoup compté sur sa vie. On sait que Vivaldi a terminé sa vie avec l'une de ses anciennes élèves qui était sortie de l'hôpital et pour la citer, prendre soin de lui. Et je ne sais pas si vous avez reconnu une partie de l'air de ce concerto qui peut-être vous dit quelque chose. C'est assez normal car cet air, Vivaldi s'en est servi pour composer l'un des airs les plus célèbres de l'un de ses rares opéras, Il Giustino Vedrò col mio diletto, interprété en général par des contre-ténors. Et de fait, ça n'est pas du tout un hasard. Ça arrive souvent que les musiques composées par les jeunes filles pour les jeunes filles de l'Ospedale, ils se retrouvent ensuite plus tard dans des opéras, comme l'explique toujours la musicologue Caroline Giron-Panel.
Ce qui est intéressant, c'est que les maîtres de chœur des Ospedalies, donc qui ne composaient que de la musique sacrée pour les Ospedalies, étaient aussi, de façon concomitante, compositeurs pour les opéras de Venise. Comme Vivaldi, comme Galuppi, un certain nombre de grands musiciens du XVIIIe siècle. Et les musicologues qui ont travaillé sur les partitions d'oratorio composées pour les Ospedalies ont émis l'hypothèse que je trouve tout à fait convaincante, que ces compositeurs auraient testé sur le public des Ospedali les innovations qu'ils auraient voulu introduire à l'opéra. Comme ça, si ça ne plaisait pas, on risquait pas de perdre d'argent, on ne les introduisait pas dans l'opéra. Par contre, si ça plaisait, il y avait déjà eu un public test. Et on s'en rend compte parce que les voyageurs qui se rendent à Venise au XVIIIe siècle sont assez choqués d'entendre parfois dans les oratorios un style qui leur semble très proche de la musique théâtrale, ou d'entendre des mandolines, ou d'entendre certains traits qu'ils disent tirer directement de l'opéra.
Un extrait de l'air d'Il Giustino Vedrò col mio diletto, interprété par l'inénarrable Jacob Orlinski, qui a rendu cet air à nouveau célèbre dans une merveilleuse vidéo de France Musique qu'on vous invite à redécouvrir, où il chante en basket. Et cet air, évidemment, Vedrò col mio diletto, où il reprend le concerto pour violon testé donc à l'Ospedale della Pietà par Antonio Vivaldi, et donc il s'exprime ici sur un autre terrain, celui de l'opéra. Évidemment, les femmes qui vont compter dans la vie de Venise, ce sont souvent aussi des chanteuses d'opéra, des cantatrices qui ont ont rayonné, qui ont joué un rôle évidemment critique sur ces scènes d'opéra qui étaient très nombreuses à Venise au XVIIIe et ensuite évidemment au XIXe siècle, âge d'or de l'opéra. C'est le cas notamment de Maria Malibran, dont on a souvent dit qu'elle était la première grande star de l'ère moderne, cantatrice géniale formée à Paris par un père hispanophone qui va faire des tournées triomphales en Italie et dans le reste du monde avant de mourir très jeune à 25 ans. Maria Malibran qui s'était produit dans un théâtre, l'un des deux théâtres de Venise, le deuxième plus important théâtre d'opéra après la Fenice, théâtre qui s'appelait alors le Teatro San Giovanni Cristomo. Elle vient s'y produire, interpréter la Somnambule en 1834 et elle constate que l'opéra est plutôt en mauvais état, que les travaux ne sont pas bons et donc fortement consternée par l'état de l'édifice, elle renonce à son cachet pour aider à financer la réfection de ce théâtre qui porte dans l'année suivante son nom, le Teatro Malibran. Donc aujourd'hui encore, cette femme règne sur Venise grâce à la beauté de cette ère, de la Somnambule, à laquelle l'interprétait, certains disent, comme une reine, comme une femme divine. Évidemment, le son, nous ne l'avons pas, mais on peut imaginer dans cette interprétation ici de A non crede a mirarti par Angela Gheorghiu.
Oh, non crede.
l'immense Angela Georgiou qui reprend ici l'air de la somnambule qui a rendu célèbre Maria Malibran, cantatrice qui a beaucoup marqué Venise au 19e siècle et dont un des théâtres porte son nom. C'est aujourd'hui le théâtre où se produit l'orchestre de La Fenice. Et La Fenice, c'est aussi la maison d'opéra à qui on doit finalement la figure, le succès de l'autre grande cantatrice de l'histoire de l'opéra, évidemment Maria Callas, dont le destin s'est entièrement joué à Venise. Si elle est devenue la Callas, c'est parce qu'elle se produisait en 1949 en tant que jeune cantatrice, vrai talent, hein, cantatrice new-yorkaise d'origine grecque qui avait été remarquée les saisons précédentes. Elle avait été engagée pour jouer à La Fenice dans le répertoire wagnérien. Elle interprétait Brunhilde dans La Valkyrie, un rôle de soprano dramatique où elle fait plutôt bonne impression. Mais juste après ces représentations de La Valkyrie doivent se tenir les représentations du répertoire italien chéri des Vénitiens, à savoir Ippolitani de Bellini. Et là, c'est le drame. Gros épisode de grippe. Toutes les sopranos qui devaient tenir ce rôle, eh bien, tombent malades. Et c'est parce que la Callas va être capable, en quelques jours seulement, d'apprendre et de faire une rendition, de faire des représentations sublimes de ce rôle de soprano très léger, le rôle d'Elvira qui était exactement aux antipodes de celui qu'elle avait interprété quelques jours avant, qu'elle va devenir la Callas, la cantatrice la plus légendaire de tous les temps. Épisode qu'elle racontait dans une interview, Callas in her own words. Je faisais la Valkyrie et je me rappelle qu'il y avait un épisode de grippe. Et le pauvre Séraphine essayait désespérément de trouver une cantatrice et tout le monde se désistait. Et moi, le soir, je m'ennuyais, donc je restais avec l'orchestre et puis à un moment donné, je me suis mis à chanter l'air d'Elvira. Et sa femme, à Séraphine, passe et elle m'entend chanter cet air. Elle me dit « Quand mon mari viendra, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, recommencer à chanter cet air ? Il est tellement désespéré, ça lui fera plaisir. » Et à 10h le lendemain, je reçois un coup de fil. Moi, je suis en costume, je dis que je ne peux pas descendre. Et on me dit « Descends maintenant !» Séraphine dit « Chante !» Chante ce que tu as chanté hier. Il y avait le directeur du théâtre. Bon, on me force à chanter, je le fais, mais c'est un air que je connaissais à peine, je l'avais chanté 2 ou 3 fois. Je les entends parler, et là ils me disent « Écoute Maria, c'est toi qui vas faire ce rôle dans une semaine. » J'ai dit « Quoi ? Je vais faire quoi ? C'est toi qui chantes les Puritains dans une semaine. » Je dis « Mais moi je peux pas, j'ai encore 3 Brunhildes à faire. » Mais tu vas le faire. Moi je te garantis que tu peux le faire, Maria. » Moi, j'ai dit, moi, je peux vous garantir que je peux faire de mon mieux, mais plus que ça, je peux pas. Il dit, d'accord, toi, tu me garantis ça, moi, je te garantis que ça va marcher.
Yeah!
C'est la fin de cette série musicale sur les femmes musiciennes à Venise. On avait encore tant et tant à dire. On aurait pu évidemment parler, vous faire entendre Teresa Bragadi, l'une des pionnières de la musique électronique vénitienne entre toutes. Merci beaucoup à Lou Quevauvier qui m'a aidé à préparer cette émission, à l'équipe de la discothèque de Radio France, à Emmanuel Benito qui est à la réalisation aujourd'hui et à l'immense Dani Lia qui était au mixage. N'oubliez pas que vous pouvez évidemment réécouter cette série musicale sur l'application de Radio France. On vous conseille de lire Désir pour Désir, un court livre de Mathias Sénard consacré aux musiciennes d'Ospedale, et Consuelo, immense roman de Georges Sand qui lui aussi évoque cette exception musicale vénitienne.